c'est la fête, évidemment, de l'un des plus grands saints. On ne peut pas ne pas le refaire. Je vous en avais parlé l'an dernier, mais j'en parle encore cette année. C'est Saint-Vincent de Paul. Tout le monde aime Saint-Vincent de Paul. Il est demeuré le saint le plus populaire en France, avec Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est aujourd'hui la 304e rencontre. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je ne recommencerai pas la vie de Saint-Vincent de Paul. C'est un paysan, n'est-ce pas, à l'accent gascon. Il avait un accent très prononcé, très paysan. Il a été ordonné prêtre à 19 ans, voulant faire une espèce de carrière dans le clergé. Il avait des ambitions que lui avaient mises dans la tête ses parents. Et son premier but, c'est de rechercher évidemment ce qu'il appelle une honnête retirade, c'est-à-dire se retirer avec de l'argent qui lui tombe dans les mains, par un bon bénéfice, comme on appelle, c'est-à-dire une charge ecclésiastique, soit dans une maison très riche, dans un palais, soit avec un titre que lui aurait donné le roi. Alors, il passe 10 années comme ça. Il est né en 1581, il est donc ordonné en 1600 à 19 ans, et jusqu'à l'âge de 29 ans, c'est une période assez peu connue de sa vie. Puis en 1612, il est dirigé par Pierre de Bérulle, dont je vous parlerai un jour, le cardinal Pierre de Bérulle, qui est à cette époque-là un homme plus simple. Il est le Vincent de Paul, qui est curé de Clichy, devient précepteur chez Emmanuel de Gondi, qui est général des galères. Et on a vu ça dans le film « Monsieur Vincent », n'est-ce pas? C'est de là que date ce qu'il nomme sa conversion. Qu'est-ce qui lui arrive à ce prêtre embourgeoisé, quoi? C'est qu'il voit les galériens. Et ça le transforme. La pauvreté le blesse au cœur. Et en 1625, alors qu'il est curé de Châtillon-sur-Dombes, oh, c'est une région assez plate, où il y avait beaucoup de marais. Hein. J'y suis allé déjà, il y a une trappe là qui a été construite au siècle dernier dans des conditions extrêmement difficiles, puisque on dit que 75 jeunes trappistes en sont morts à cause des marais. Et Vincent de Paul rencontre Louise de Marillac, qui est une femme un peu spéciale, mais qu'il transforme, et qui deviendra Sainte Louise de Marillac. Et pour les missions dans les campagnes, ils fondent les Lazaristes, cette communauté remarquable pour le cœur qu'ils ont. Ils ont un cœur admirable, la plupart des trappistes. Ils font ça en 1633, puis ils fondent aussi les fameuses filles de la charité, ces femmes qu'on appelle les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul. Alors c'est un prêtre modèle qui rayonne dans toute la France, et le roi Louis XIII meurt même dans ses bras en 1643. Et pendant 10 ans encore, bien Monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul, sera membre du Conseil des Consciences, comme on appelle ça, j'expliquerai ça. Et en 1653, il organise les secours aux provinces dévastées, puis il meurt en 1660 à l'âge de 79 ans. Il a fondé quantité de choses qui ont nécessité beaucoup d'aide de la part des laïcs, qui se sont montrés fort généreux. Car ces œuvres d'Église comptent évidemment sur les laïcs. Sans nous, les laïcs, ces œuvres en général ne se maintiendraient pas. D'ailleurs, lorsque M. Vincent arrivait au palais du Louvre avec sa soutane rapiécée, lorsque le nouveau ministre Mazarin l'apercevait, puis le regardait d'un regard dédaigneux, Mazarin, cardinal Mazarin, était assez étrange, Mazzarini, qui aurait pu penser que l'œuvre de Saint-Vincent de Paul subsisterait bien au-delà de l'œuvre du grand cardinal de Richelieu, qui vivait à la même époque. Cardinal de Richelieu, qui est un monument où personne ne va. Personne ne vénère le cardinal de Richelieu. Pourtant, je le ferai un jour, le cardinal de Richelieu. C'est un homme intéressant. Or, l'œuvre de M. Vincent, bien, elle subsiste toujours. Est-ce que c'est l'œuvre de M. Vincent, au fait? Quand je dis l'œuvre de M. Vincent, c'est une œuvre humaine, mais ce n'est pas qu'une œuvre humaine. Est-ce qu'une œuvre humaine pourrait avoir une pareille envergure, comme on peut le lire dans France religieuse du XVIIe siècle, au chapitre 2, un ouvrage très intéressant, où je puise beaucoup ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors d'où vient ce jaillissement de vie, cette fécondité étonnante, cette force le prodigieuse que ni les problèmes politiques et puis ni l'exil, ni même l'échafaud, ni les guerres, ni le temps n'ont effrité. L'échafaud de la Révolution n'a pas annihilé cette congrégation comme bien d'autres. Non, elle a survécu, elle est devenue extrêmement vivante, elle l'est toujours. Comment ce petit paysan dont je vous ai parlé avec cet accent gascon qui a commencé par garder les bêtes de son père, les animaux de son père, comment a-t-il pu concevoir et réaliser tant d'œuvres remarquables? Comment a-t-il pu s'adapter aux grands puis aux petits, aux puissants, aux faibles, aux riches, aux pauvres, et même aux docteurs puis aux illettrés? Il frayait avec tout le monde avec une pareille aisance, une aisance identique. Il était extraordinaire, il avait une foi profonde. Il n'a pas été seulement le fondateur d'œuvres de charité, il était aumônier de la reine Marguerite de Valois. Il a été précepteur, ça veut dire celui qui forme les enfants, qui éduque les enfants de la maison de Gondi, une des maisons les plus puissantes de France à cette époque. Il était aumônier des Visitandines, fondées par Sainte-Jeanne de Chantal, au Faubourg Saint-Antoine. Il était membre du Conseil de conscience, comme je vous ai dit. Il était aumônier des Galériens. Il était prédicateur de retraite sacerdotale pour aider les prêtres. Il était fondateur même de séminaires. Une page de l'Évangile, d'ailleurs, nous donne seule, on peut dire, la clé de ce prodige. C'est au chapitre 25 de Saint Matthieu. Prenant la parole, Jésus dit à ses disciples, vous vous souvenez de ça, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. Nu, vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Et en prison, vous êtes venu à moi. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des ces plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et parce que Vincent de Paul a compris ce qu'était la charité de l'Évangile, parce qu'il a pris conscience de l'insistance étonnante que le Christ a mis à s'identifier à chacun des membres de son corps mystique, mais il voit en chaque détresse, en chaque souffrance, en chaque besoin des hommes, la détresse, la souffrance et le besoin même de Jésus-Christ. Et dès lors, comment peut-il, lui, un prêtre, un chrétien, laisser une misère sans essayer d'y apporter un aide? La charité du Christ nous presse. Comme le dit Pascal, Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Et c'est parce que cette charité surnaturelle a vraiment submergé son âme que M. Vincent va se donner à tous. Sans un instant de répit, en vrai chrétien, oui, en vrai chrétien, en vrai prêtre, en ces pauvres-là qui manquent du nécessaire à Châtillon-les-Dombes, ils voient le Christ souffrant. Ces bébés abandonnés sous le porche d'une église, ils voient le Christ dans la crèche de Bethléem. Préoccupe pas si c'est légitime ou illégitime. Les forçats, là, qui souffrent sous le poids des rames, sur les galères royales, ils voient le Christ qui chancelle sous le bois de la croix, quand il porte sa croix. En ces chrétiens qui sont vendus comme esclaves en pays musulmans d'Afrique du Nord à cette époque, oui, on vendait des chrétiens comme esclaves, ils voient le Christ livré pour 30 pièces d'argent. Dans ce pauvre peuple des campagnes de France, qui est malmené par les grands, les puissants, les snobs, comme on dit aujourd'hui, écrasé sous l'impôt puis ruiné par les guerres, mais il voit le Christ qui est méconnu, bafoué. Et même dans ces prêtres ignorants ou indignes, il y en avait beaucoup à l'époque, et en ces évêques qui étaient poussés sans vocation dans un état de vie qui, au fond, on le sait tous, requiert la sainteté, être évêque, être saint évêque. Et ces hommes-là n'avaient guère la foi, c'était des questions politiques et tout ça qui menaient des gens à occuper des sièges épiscopaux. Ils voient le Christ encore là, oui, le Christ défiguré, le Christ qui a faim, qui a soif, qui est étranger, nu, malade, prisonnier. Et comme il l'exprimera aux dames de la charité qui se cabraient en face de l'œuvre des enfants trouvés, des enfants illégitimes, je pense, il se pose à lui-même la question, à tous ceux-là qui souffrent, qui sont dans le besoin, sommes-nous libres d'accorder ou de refuser notre secours? Je répète, à tous ceux-là qui souffrent, tous ceux-là qui souffrent, qui sont dans le besoin, sommes-nous libres d'accorder ou de refuser notre secours? Et la réponse est nette. Si nous ne les secourons pas dans leur nécessité extrême, nous sommes, dit saint Vincent de Paul, passibles de la damnation éternelle. Il rappelle les paroles de l'Évangile, « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. » Il ne s'agit pas ici d'un conseil, comme celui de la pauvreté ou de la chasteté. Il s'agit d'une obligation stricte, sans appel et sans commentaire. Voilà ce que M. Vincent a compris, voilà ce qui a fait de lui un saint, voilà ce qui explique toute sa vie. Alors sa vie, personne ne l'ignore. Le fameux film dont je vous ai parlé de Maurice Cloche avec Pierre Frenet, là. Et dans toutes les mémoires, on peut y relever quelques petites inexactitudes historiques. Mais ce film, d'une portée beaucoup plus qu'historique, ça a su faire revivre, moi du moins dans mon cœur, une page d'histoire chrétienne et d'esprit authentiquement français, authentiquement chrétien. Comme la remarque en a été faite, on aurait pu souhaiter qu'on remonte plus visiblement à la source de ces actes, se trouve dans le Christ, car le Christ seul peut expliquer une telle vie. L'œuvre de M. Vincent, c'est pas une œuvre humaine, comme on peut l'imaginer dans le film, c'est une œuvre divine, et n'allez pas croire non plus que M. Vincent a trouvé dans son berceau la sainteté toute faite, il n'est pas né avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était plein d'ambition, comme jeune prêtre, il voulait avoir des décorations, des beaux vêtements, la gloire, les honneurs, la reconnaissance. Il est né comme nous tous, on pourrait dire avec le péché originel, avec des orientations vers le mal. Il est né dans une société fortement marquée de préjugés mesquins et de principes erronés. Mais ce petit gamin aux cheveux noirs, qui a gardé quelques bêtes de son père, était un homme exceptionnel. Et nous verrons tout à l'heure comment cet homme s'est transformé et est devenu ce grand saint, ce saint qui a transformé la France, transformer le cœur de millions de gens et le transforme encore. Lorsqu'on décide d'engager Saint-Vincent de Paul, c'est pas Saint-Vincent de Paul, Monsieur Vincent, je devrais dire, dans le clergé, une belle situation, ce petit paysan gascon en a rougi même. Il a rougi de son père. Il a rougi de marcher aux côtés de son père qui boitait, qui était sans élégance, qui était un paysan, qui portait des habits de paysan. Et Vincent de Paul, un peu snob, va rougir de son père encore une fois. Ben oui, il est allé jusqu'à refuser un jour de recevoir la visite de son père, ça l'aurait trop révélé aux yeux de ses camarades plus fortunés. Pendant qu'il faisait ses études, il était jeune évidemment, puisqu'il était ordonné prêtre à 19 ans. En dépit des règlements. Vincent de Paul, qui était donc étudiant à Dax, semble penser beaucoup plus aux honneurs, à sa carrière. Plus tard, bien plus tard, il va avouer, en se rappelant ses premières années d'ambition et de vanité, quand on entre dans les intérêts de la famille, quand on partage les ambitions, si vous voulez, de ses parents, non, les vaines gloires On s'y embarrasse, dit-il, comme une mouche qui est tombée dans les filets d'une araignée. Mais si le père de Vincent de Paul a vendu la paire de bœufs de sa ferme dans l'espoir que son fils, un jour, va lui rembourser cette somme et davantage, puisqu'il sera devenu riche, sa vie d'étudiant, ça coûte cher, faut vivre, sans trop demander à son père de l'argent. Alors Vincent de Paul a des ressources, il se fait répétiteur, et puis il ouvre même une pension pour des étudiants. La vie est belle. Prêtre à moins de 20 ans, en dépit des ordonnances du Concile de Trente, hein, mais du pouvoir quand même, sachant un peu le latin, un peu de théologie, un peu de philosophie, il est nommé curé d'une petite paroisse, et 5 ans plus tard, les dignités semblent lui sourire. Il obtient toutes sortes de choses. Il part même à la poursuite de quelqu'un qui lui aurait enlevé une partie de son héritage. Il loue un cheval qu'il vend en cours de route. Il se rend jusqu'à Marseille pour obtenir le paiement de ce qui lui revient. Il compte ses sous. Quelques années encore, et Vincent de Paul reste empêtré dans les filets de l'araignée, comme il dit. Il court, il cherche les décorations, il cherche, on dirait, l'Ordre du Canada, la Légion d'honneur, toutes sortes de choses, et au lendemain de la mort de Henri IV, il reçoit en commande, c'est-à-dire les bénéfices, l'argent, de l'abbaye cistercienne de Saint-Léonard de Chaume, en plus du titre d'aumônier de la reine Marguerite de Valois. Mais Dieu merci, voici que sonne l'heure des illusions, c'est l'heure de la grâce, c'est l'heure de la grâce. Est-ce le procès compliqué dans lequel il a dû se débattre pour disputer à un échevin protestant de La Rochelle les revenus de son abbaye? Est-ce l'expérience qu'il fait des grandeurs humaines au palais de Marguerite de Valois, ou le contact qu'il prend avec les Gondis qui sont si riches, sa rencontre avec Saint-François de Sales, ou son rapprochement avec Bérulle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien cet acte héroïque déjà, qui le fait étrangement s'offrir spontanément à Dieu pour souffrir à sa place, à la place d'un docteur plutôt en Sorbonne, un docteur en Sorbonne qui a des doutes, des angoisses, et qui menace de lui faire perdre la foi. Et il s'offre à Dieu, chose étrange, pour passer à travers ce chemin rude de la quasi-perte de foi. En tous les cas, qu'est-ce que soit le chemin là que prend la grâce? La grâce, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même la grâce, qui fait irruption dans son âme, et Vincent Paul, en tout cas, reçoit Dieu dans son cœur et se livre à son action. Il se laisse former par la grâce, comme on dit, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, comme un outil de choix entre les mains de Dieu, pour cette œuvre gigantesque qui va devenir l'instrument fantastique de cette œuvre. On peut que parcourir les étapes rapidement, hein. Il y a les confréries de la charité qui datent des années 1617-1618. Monsieur Vincent est curé, je vous l'ai dit, de Châtillon-les-Dombes, dans l'ancienne Bourgogne. Hein. Ce qui, décidément, lui convient mieux que d'être chez les grands. Il y reviendra pourtant, non plus pour son propre intérêt, mais parce qu'il y pourra trouver le point de départ d'un champ d'action encore plus vaste et obtenir les sommes nécessaires. Il se fait qu'il va quêter. Châtillon-les-Dombes, en 1617, il y a une paroisse qui avait perdu son âme, comme on dit, comme bien des paroisses. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont perdu leur âme. Et c'est son âme, d'abord, que le nouveau curé veut faire revivre en elle, dans sa paroisse. À l'œil pratique et observateur très fin, il ouvre les yeux. Il veut lui corriger par l'amour, et peu à peu, la vie surnaturelle reprend dans la paroisse. La charité spontanément jaillit, et parce qu'un pauvre malade se trouve mal accommodé dans la grange qui lui sert de maison, bien les paroissiens se pressent pour aller l'assister. Il transforme ses paroissiens en évangélisateurs, en gens de charité, de cette bonne volonté, comment tirer parti. Alors peu à peu, le plan se trace là. Jamais M. Vincent n'ira vite en besogne, non pas du tout. C'est un grand homme d'action, c'est pas un agité. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit « Qui s'empresse recule aux choses de Dieu ». C'est le langage de l'époque. Monsieur Vincent, de sa main, il ébauche le règlement pour les laïcs. Il va y avoir un règlement dans la confrérie qu'il fonde. afin d'empêcher ses membres d'être inconstants et plus ou moins fantaisistes. Alors ces paroissiennes qui veulent se dévouer, elles devront s'organiser et chacune aura son jour de garde auprès des malades du village. Mais ce jour-là, elle va se donner sans compter à sa besogne, en puisant non dans sa propre bourse, mais dans la bourse commune des pauvres que détient la trésorière. Et les comptes vont être dûment inscrits, les quêtes, les dons d'une part, les dépenses de l'autre. Il veut vraiment que ça s'organise solidement. Il faudrait avoir le temps de citer en détail les conseils que ce curé donne à ses paroissiennes. Les paroisses aujourd'hui qui vivent de cet esprit, en Floride, en France, en Italie, partout. Il y a un renouveau paroissial à travers le monde actuellement. Pour aller aux sources. Alors, ces conseils là, qui viennent de son cœur, on dirait qu'ils viennent d'un cœur de mère, qui pense à son enfant malade. Rien n'est omis. Il pense à la chemise blanche, la tablette à poser sur le lit, la serviette à mettre dessus pour que ce soit plus propre. Le menu même est prévu d'avance. Il dit, chaque malade aura autant de pain qu'il lui en faudra, avec un carteron de mouton ou de veau bouilli pour le dîner, et autant de rôtis pour le souper, excepté les dimanches ou fêtes, qu'on leur pourra donner quelques poules bouillies. Il veut les bien nourrir, les malades. Et l'esprit qui anime tout cela, il écrit « celle qui sera en jour », c'est-à-dire en faction, qui travaillera là, « aidera le malade charitablement à manger pour l'amour de Jésus et de sa Sainte Mère, le tout avec amour, comme si elle avait affaire à son fils, ou plutôt à Dieu lui-même. » C'est beau, hein? À cette œuvre de charité confiée d'abord aux femmes, M. Vincent, 1620, invite aussi les hommes, mais en fait, c'est une œuvre féminine qui va prendre une incroyable ampleur. Et M. Vincent, revenu sur les terres de Gondy, mais les confréries de charité se multiplient rapidement et chaque paroisse a bientôt la sienne. Et cependant, c'est dans les villes, c'est à Paris même que les pauvres sont les plus nombreux et peut-être les plus miséreux. Ces pauvres, vrais déchets de l'humanité, dont les grands et les riches se détournent avec horreur. Et M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, fondateur des Sulpiciens, lui, il ose approcher les pauvres en pleine rue. Il fait scandale. Ça se pratiquait pas beaucoup, la charité véritable, à l'époque. Et après 10 ans d'efforts, M. Vincent a réussi à former dans la capitale, dans Paris, un petit noyau de bonne volonté. 12 membres pour débuter. Seulement 12, comme Jésus-Christ, avec ses 12 apôtres. Et ici, ce sont les dames de la noblesse. Oui, des personnes de qualité. Des femmes très riches, elles seront, tout compte fait, moins faciles à manier que les paroissiennes de la campagne. C'est pas facile de manipuler des gens très riches. Alors, je vous donne quelques noms. Madame Gousseau, qui est-elle? C'est la veuve du président de la Chambre des comptes. Grande personne. Madame de Bailleul, femme du président du Parlement. Madame Séguier, femme du chancelier. Et la fameuse Madame Fouquet. Vous avez l'idée de ce que c'est? C'est la mère du surintendant, là, ce pauvre Fouquet, qui est mort condamné pour avoir voulu éblouir les yeux du roi Soleil avec son château de Vaux-le-Vicomte. Allez voir ce château de Vaux-le-Vicomte, il est toujours là. Extraordinaire à visiter, un des plus beaux châteaux du monde. Ce château que ce pauvre Fouquet avait embelli grâce aux peu de scrupules qu'il avait comme intendant. Il avait volé l'État. Mais sa femme a assisté Vincent Paul. Et ces grandes dames qui savait se dévouer, avec un petit peu de vanité peut-être, mais ces grandes dames étaient, moins que les paroissiennes de la campagne à Châtillon-sur-Dombes, à leur affaire auprès des pauvres. Si leur argent devait être pour M. Vincent un appoint, une aide extraordinaire sans laquelle il n'aurait pu fonder ni les enfants trouvés ni la salpêtrière, mais les obligations sociales empêchaient souvent d'être disponibles ces pauvres femmes qui étaient trop riches. Leur rang, leur manière, à leur insu peut-être, leur rendait difficile l'entrée des pauvres maisons où s'entassaient les malheureux qu'elles voulaient secourir. Un jour, M. Vincent voit qui venait à lui une fille de la campagne, une vachère aux mains rouges et au visage hâlé. Elle vient de Suresnes. Suresnes, c'est pas loin de Paris. Dans ce temps-là, c'était la brousse. Alors la confrérie des dames de charité, on en parlait à Suresnes. Et Marguerite Nazot s'était dit, ces dames de qualité, habituées à toujours être servies, Moi, être rebuté par toutes sortes de travaux. Alors, elle vient se proposer, Monsieur Vincent de Paul, veut d'elle pour faire des saignées, des lavements, panser les plaies, faire les lits, veiller les malades qui sont seuls et qui tendent à la mort. Alors, Monsieur Vincent sourit, puis cette fille, c'était la Providence qui la lui envoyait, et avec elle, il va faire l'œuvre de la Providence, qui n'est pas son œuvre à lui. Et nous verrons tout à l'heure toute la progression de cette œuvre fantastique. Alors, nous avons vu Monsieur Vincent qui reçoit cette jeune femme, et il dit, lors d'une conférence, quelque temps plus tard, « Et qui eût jamais pensé qu'il y eût des filles de la charité, lorsque les premières sont venues pour servir les pauvres dans quelques paroisses de Paris? Oh, mes filles, je n'y pensais même pas. C'est donc Dieu qui y pensait pour vous. » Alors, après Marguerite Nazot, donc, d'autres filles du village sont venues aussi mettre au service des pauvres de la capitale et leur cœur et leurs bras. Et ce dévouement, ce besoin d'épancher cette espèce d'amour maternel qui gît, à mon avis, au plus profond de tout cœur de femme et qui souvent ensevelit et qu'elles ne reconnaissent même plus aujourd'hui parfois, mais ça va pouvoir magnifiquement s'épanouir, ça va se transposer sur le plan de la charité chrétienne. Et comme le dit si bien M. Vincent, car voyez-vous, mes filles, qui dit charité dit Dieu. Qui dit charité dit Dieu. Vous êtes filles de la charité, donc vous devez vous former à l'image de Dieu. Et avec son esprit très fin, avec son intuition de saint, là, M. Vincent a compris tout cela. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ces filles de France, là, qui veulent se donner tout au service des pauvres, des petits, même des forçats, des malades? Est-ce qu'il va en faire des religieuses? Il n'y songe même pas, parce que l'expérience de saint François de Sales date de 25 ans à peine, de celles qui auraient dû être des sœurs de la Visitation, pour visiter les pauvres parcourant les routes de France. C'est pour ça qu'elles s'appelaient sœurs de la Visitation, les Visitandines, pour aller porter le Christ avec leur charité. Mais les règles canoniques de l'époque avaient fait de ces sœurs-là des moniales, bien séparées du monde, puis de sa misère. Qu'elle aurait voulu secourir, elles ont été séparées du monde par des grilles infranchissables. C'était le règlement à l'époque. Les sœurs devaient être derrière des grilles et dans des cloîtres. Et c'était pas pour cela que Marguerite Nazot et Jeanne d'Allemagne, c'est un nom de chez nous, André d'Allemagne, qui était la source du mouvement indépendantiste du Québec, Barbe Foin, Marie Vigneron, Geneviève Caillou, un autre nom de chez nous comme André Caillou, comédien qui a tellement amusé les enfants autrefois, et les autres jeunes filles, étaient venues trouver M. Vincent. C'était pas pour cela. Qui dit religieuse dit cloître. Les filles de la charité doivent être partout, selon M. Vincent. Ah oui, il en prend son parti. Elles n'auront pas d'autre monastère que la maison des pauvres, dit-il. Pas d'autre cellule qu'une chambre de louage. Pas d'autre chapelle que l'église paroissiale. Pas d'autre clôture que l'obéissance. Pas d'autre grille que la crainte de Dieu. Pas d'autre voile que la sainte modestie. Alors, tout bonnement, elles vont garder leur costume paysan des villages de l'Île-de-France. C'est de là que ça vient, ce très beau costume qu'elle portait autrefois, ce corsage et la robe de laine sombre qui était bleue, hein, avec le tablier puis la coiffe de toile blanche, là, immense, aux larges ailes, là, qui protège du soleil dans les travaux des champs. Pour elle, pas de noviciat, pas de vœux perpétuels. Pour une année seulement, chacune se va s'engager par une promesse privée. Elles seront libres d'aller là où les appellent toutes les détresses physiques, hein, celles des pauvres qui toussent sur leur grabat sans soin, celles des petits-enfants que leur mère abandonne, et celles aussi des galériens qui sont écrasés plus encore par le poids de la vie que par le poids des rames, hein, comme dit un auteur. Il y a celles des agonisants aussi qui meurent abandonnés sur un lit d'hôpital. Mais mon père est mort comme ça sans qu'on soit autour de lui. Quelle tristesse, hein. Et celles des vieillards infirmes dont nul ne se soucie. Tâche immense, incessante, qui jamais n'épuisera. Le plus puissant attrait d'amour et de don de soi. Ces femmes-là sont fantastiques. L'Église est chargée, comme ça même encore aujourd'hui, de femmes fantastiques. Chargée? Elle est libérée. Ce sont des femmes qui libèrent l'Église, qui donnent un souffle à l'Église. Et cependant, à ces filles de village, qu'aucun travail n'arrête et qu'aucun soin ne rebute, il faut une supérieure. Et la choisir. Parmi elles, la chose est impossible. Monsieur Vincent a bien plus de bon sens. Une intelligence fine, profonde, vaste. Lui qui, de tous les hommes, les petits et les grands, voit les membres du Christ. Il voit ça partout. Il sait bien cependant, comme le dit saint Paul, que dans le corps mystique, chacun a sa fonction. Et c'est l'ordre même de la providence. Alors, loin de vouloir niveler toutes les classes en une seule, il pense avec raison que des filles illettrées, qui n'ont aucune habitude des affaires, même les plus parfaites des servantes des pauvres, ça ne peut pas assumer sans dommage la responsabilité de la direction de cette œuvre naissante et devenir supérieure. Et la supérieure qu'il souhaite, il faut qu'elle soit intelligente, instruite, ayant le sens pratique. Que de grandes supérieures on a eues dans nos congrégations ici au Québec. Que de femmes fantastiques que j'ai rencontrées, moi. Des femmes exceptionnelles comme on en trouve très peu dans le monde, qui ont dirigé ces grandes congrégations avec beaucoup de dévouement. A-t-on suffisamment de reconnaissance à leur égard? Alors Dieu lui fait trouver la femme qu'il cherche. Dans la paroisse même du Saint-Sauveur, d'où lui sont venus déjà les ouvrières de la première heure, et c'est la nièce du maréchal Louis de Marillac et du garde des Sceaux Michel de Marillac. C'est la veuve d'Antoine Legras. Je vous avais promis de parler un jour de cette demoiselle Legras. Eh bien, c'est elle, Madame Legras. Elle a 34 ans. Depuis un an ou deux, elle s'est mise sous la direction de M. Vincent. Et Louise de Marillac n'a pas l'envergure peut-être d'une Thérèse d'Avila. Bon, elle n'est pas appelée à jouer dans la Fondation des Filles de la Charité, et sur la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, le même rôle que Madame de Chantal auprès de Saint-François de Sales pour les visitandines. Par tempérament, elle va se replier sur elle-même. On ne peut pas dire que la vie l'a épanouie. Enfant, elle n'a pas connu la tendresse de sa mère. Elle est veuve très tôt après la naissance de la petite fille. Son père s'est remarié avec une veuve qui a déjà trois filles. Alors quand il meurt lui-même, ben Louise n'a pas 13 ans, que de souffrance. Hein? Et cette pauvre adolescente qui est sensible, peu ouverte, se croit quand même une vocation de contemplative. Alors elle a voulu entrer chez les Capucines de Paris. Et très sagement, on l'en a détourné. Mais comment arracher de son cœur la nostalgie du cloître? Alors on lui fait épouser finalement, en 1613, Monsieur Antoine Legras, qui a un beau titre, secrétaire des commandements de la régente Marie de Médicis. Et après 10 années de vie assez heureuse, bien, elle voit son mari aux prises avec la maladie, puis de cette épreuve, elle se persuade qu'elle est responsable. Alors elle veut quitter le foyer conjugal, elle veut s'enfuir au couvent. Étrange, hein? Elle veut réparer ainsi la faute qu'elle croit avoir commise en se laissant marier, malgré sa vocation. Que de tourments spirituels ont certaines personnes, hein? Que d'imagination ils ont. Et M. Legras, ben, meurt 2 ans plus tard, en 1625. Il lui laisse à élever un garçon de 12 ans, mais au caractère difficile, qui va lui donner moins de bonheur que de tracas. Elle a 2 oncles qui vont périr en 1632, dans la répression de Richelieu au milieu des désordres de la Fronde, là, l'un au fond d'une prison, puis l'autre sur l'échafaud. Elle souffre beaucoup. C'est une âme inquiète, angoissée, qui craint toujours de ne pas servir Dieu comme elle le doit. Pauvre elle. Avec cette tendance maladive à sans cesse éplucher sa conscience, à revenir sur le passé. Mais pourtant, elle a l'étoffe d'une sainte. Elle veut servir. Elle veut se donner. Et elle veut aimer. Elle deviendra sainte Louise de Marillac. Très vite, d'ailleurs, l'esprit pénétrant de M. Vincent comprit ce caractère complexe et son intuition de saint lui révèle les trésors cachés dans ce cœur qui cherche à se dilater. Et à Louise de Marillac, il faut bien une direction compréhensive et ferme, parce que l'équilibre, elle ne le trouvera jamais que dans l'activité, dans le don de soi. C'est là qu'elle va trouver son équilibre. Un don de soi total, continu. Ils ne laisseront plus le temps là, de retomber sur elle-même et de grignoter sa conscience. L'amour qu'elle craint toujours de ne pas donner à Dieu, elle le lui donnera concrètement en la personne des pauvres. Oui, l'amour qu'elle craint toujours de ne pas donner à Dieu, elle le lui donnera concrètement dans la personne des pauvres. Monsieur Vincent lui dit, « Mon Dieu, ma fille, qu'il y a de grands trésors cachés dans la Sainte Providence. » Et que ceux-là honorent souverainement notre Seigneur, qui la suivent et qui n'enjambe pas sur Icelle. Oui, me diriez-vous, mais c'est pour Dieu que je me mets en peine. Oh, ce n'est plus pour Dieu que vous vous mettez en peine, si vous vous peinez pour le servir. Et Louise de Marillac, elle comprend. Elle est capable d'une docilité absolue entre les mains de celui qui pour elle représente le Seigneur, Saint Vincent de Paul. Admirable harmonie du plan divin sur nous tous. Il faut le reconnaître, y grandir, y se libérer sous le regard de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. À l'œuvre que M. Vincent conçoit et réalise, une œuvre d'une immensité prodigieuse qui doit durer des siècles, Dieu donne cette collaboratrice parfaitement adaptée. C'est un instrument à la fois intelligent et souple. Intelligente, elle l'est. Cette femme qui s'est formée à la rude école de la vie, et sans difficulté, elle entre dans la pensée créatrice de Saint-Vincent de Paul pour agir, pour diriger même celles qui lui sont confiées. Mais cependant, elle s'est restée souple et malléable. Son rôle est un rôle de second plan. Elle en a pleinement conscience et jamais elle ne va imposer ses vues personnelles, ses manières de faire, pour réaliser l'œuvre qu'elle sait bien n'être pas la sienne. Mais en retour, car Dieu tout à la fois s'occupe et de l'ensemble et du détail et de l'humanité de chacun des hommes, il s'occupe de nous, Dieu, il nous aime. Alors Dieu ménage à Louise de Marillac, en la personne de M. Vincent, ce guide sûr, prudent, plein de sens et d'audace, sans lequel il semble bien elle n'aurait pas donné toute sa mesure. Et aux filles de la charité, mais Vincent de Paul sera amené finalement à confier à peu près toutes les œuvres de miséricorde corporelle. Les crèches, l'éducation de la jeunesse, la formation des jeunes apprentis pour qu'ils deviennent de bons ouvriers, le soin des malades à domicile, l'œuvre des bouillons, comme on disait pour les miséreux, ça rappelle l'œuvre de la soupe, hein, de Mère Gamelin, dont je vous ai parlé lundi dernier. La distribution de vêtements, l'hospitalité des voyageurs en cette époque où rares étaient les auberges qui étaient peu sûres le plus souvent. Hein. Les services des hôpitaux, services des hospices, la visite des prisons, la visite des bagnes, comme on disait. C'est tout cela qu'assument à cette époque et qu'elles assument encore ces sœurs admirables. Mais il y a une détresse plus grave encore, plus douloureuse, plus profonde que la douleur physique. C'est le péril des âmes. Hein. Il faut bien panser les plaies, il faut soigner les vieillards, c'est bien, il faut élever les enfants. Les filles de la charité entendent bien servir le Christ et donner le Christ aussi à ceux-là qu'elles servent. Oui, le péril des âmes. Si on abolit ici nos écoles, qui va former le cœur de nos enfants dans la foi de l'Évangile? Qui va faire connaître toute cette histoire que je vous raconte actuellement? Mais il reste cependant que leur rôle spécial est un rôle maternel. Ce n'est pas sacerdotal. Tout leur dévouement doit être nourri par la prière, d'accord? On ne donne pas Dieu si déjà on ne le possède soi-même, ou si on n'est pas possédé par Dieu. Leur rude besogne, leur pénitence, ça gagne les âmes des pauvres. Leurs soins sauvent les corps, bien sûr. Mais à d'autres, n'oublions pas ça, l'Église a confié la mission d'enseigner, de prêcher, de faire jaillir la grâce et de l'épanouir par l'administration des sacrements. M'entendez-vous, messieurs les prêtres? À d'autres, l'Église a confié la mission d'enseigner, de prêcher, de faire jaillir la grâce et de l'épanouir par l'administration des sacrements. Alors la fondation des prêtres de la mission, c'est comme ça qu'on appelle les lazaristes, remonte à 1625. Le but que le visera va être double, évangéliser le pauvre peuple des campagnes et former des prêtres dignes de leur vocation sacerdotale. Alors lorsque l'œuvre se fonde, toutefois, M. Vincent ne voit pas si loin que cela. Comme toujours, il suit l'impulsion de la Providence, alors il voit les besoins, il conçoit avec lenteur les moyens d'y remédier, et il prie, il attend. Puis sûr de suivre le souffle de l'Esprit, alors seulement il agit. Il se trouve alors sur les terres des Gondis, il y a une misère, une ignorance, partout, autour de la demeure princière des maîtres, là, les paysans peinent jour après jour, tous ces pauvres gens dont ont si peu de joie humaine qui peuvent illuminer leur figure. savent-ils encore au moins qu'ils ont une âme? Leurs curés, trop souvent, sont autant qu'eux des ignorants. Il y en a qui ne savent pas lire, et pour eux, M. Vincent, peut-être, pourrait faire quelque chose. Alors, en avril de l'an 1625, le fameux Philippe Emmanuel de Gondi, cet homme si riche, s'engage devant notaire, dit un vieux texte, à délivrer à Messire Vincent de Paul, prêtre du diocèse d'Aix, licencié en droit canon, la somme de 45 000 livres. Oh, que ça ferait du bien à Radio Ville-Marie de recevoir un pareil don. Hein. La somme de 45 000 livres qui sera employée en fonds de terre ou rente constituée, dont le profit et revenu en provenant servira à l'entretien de personnes ecclésiastiques qui iront de village en village prêcher, instruire le pauvre peuple des campagnes qui demeure comme abandonné. Vous remarquez en passant le sens pratique de M. Vincent, hein, il ne se lance pas à l'aveuglette dans une pareille aventure. Ces prêtres des missions qui vont aller parcourir les campagnes, qui sont trop dénués pour se nourrir elles-mêmes, il faut qu'ils vivent, les prêtres des missions. Et donc, dès le principe, dès le début, ce fondateur, Saint Vincent de Paul, accepte avec la charge ce qui est nécessaire pour que l'œuvre se fasse sans entrave matérielle, sans problème d'argent. Mais le nécessaire, c'est tout ce qu'il veut, pas le superflu. Il veut des ouvriers évangéliques. Alors les prêtres de la mission seront cela, des ouvriers évangéliques. Oui, catholiques, mais évangéliques. Et cela seulement. Avec toutes les exigences qu'une pareille vocation requiert. Avec tous les renoncements qu'elle implique. Les 10 ecclésiastiques renonceront expressément, dit le vieux texte, à leurs bénéfices, charges et dignité de l'Église. Ils vivront en commun sous l'obéissance du dixieur de Paul. Vincent de Paul. Ah, voilà pour la pauvreté. Ça brise les attaches du monde. Ça évitera à ces missionnaires d'être à leur tour embarrassés comme une mouche qui est tombée dans les filets d'une araignée, comme dit Saint Vincent de Paul. Hein. Alors voici maintenant la source où ils devront puiser l'eau, qui jaillit pour la vie éternelle. Voici le texte, c'est superbe. Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, qui ne sont pas propres à la mission, à cause que les gens des champs sont trop fortement occupés au travail corporel, eh bien les 10 pères, retenez ça, hein, les 10 pères feront retraite spirituelle les 3 ou 4 premiers jours. Nous tous, les laïcs, comme les prêtres, au début de nos actions, il faut faire des retraites spirituelles. Il faut toujours se recueillir, et même chaque jour. Et il dit qu'ils emploieront le reste du temps à disposer les matières qu'ils auront à traiter à la mission prochaine, s'occuper de leur prédication. Ils assisteront, en outre, les curés des paroisses qui les réclameront. Ils étudieront pour se rendre d'autant plus capables d'assister le prochain, les pauvres. Et de là, en avant, pour la gloire de Dieu. Oui, j'aime bien ça. De là, en avant, pour la gloire de Dieu. Alors, des terres des Gondis, on passera aux terres de Richelieu, qui sont immenses, puis à toutes les terres du royaume. Et bientôt, les missionnaires franchiront la Méditerranée pour aller assister spirituellement ces pauvres forçats. Ils vont s'installer même en pays musulmans d'Afrique du Nord. Plusieurs vont y être ce qu'on appelle des consuls de France. Comme ce pauvre père Jean le Vacher, qui, intrépide devant les autorités musulmanes, a sacrifié sa vie pour ne pas renier sa foi. Le 26 juillet 1686, on allait l'attacher à la bouche d'un canon. « Tu ne mourras pas, lui dit le chef Kara Mustafa, si tu veux arborer le turban. » Portaient des turbans, les musulmans, dans ce temps-là. Et lui de répondre fièrement, « Garde ton turban. » Sache que je suis chrétien et que je ne crains pas la mort. 26 juillet 1686. Les missionnaires essaieront encore, dès le 17e siècle, de porter l'Évangile jusqu'à Madagascar. Comme Jacques Couture, notre ancien ministre de l'immigration au gouvernement du Parti québécois, n'est-ce pas, qui a donné le pain de sa vie, ce jésuite, a donné toutes les dernières années de sa vie à Madagascar. Plusieurs, ils laissent leur vie d'ailleurs, à Madagascar, presque sans résultat. Alors, c'est répandu en France, la société des prêts de la mission, très très rapidement. Si bien que le prieur de Saint-Lazare a la pensée de faire don à M. Vincent de son prieuré, lequel a été institué par des donateurs, des gens, des laïcs généreux, pour y établir une léproserie. Mais, grâce à Dieu, il n'y a presque plus de lépreux. Alors il juge que ce serait conforme à l'intention des fondateurs d'en appliquer les revenus pour soutenir le pauvre peuple de la campagne, qui est infecté de la lèpre du péché. D'une lèpre bien plus grave que l'autre. Mais s'en rend-on compte? Et M. Vincent, lui, il accepte pas ça d'emblée parce que ce prieuré est situé aux portes de Paris avec des champs, des vergers. Est-ce que c'est pas trop beau, trop riche? Non, ce n'était pas la richesse. C'est simplement le pain quotidien que la Providence lui offre. Il le comprend. Pour ses innombrables enfants. Alors M. Vincent s'incline, il rend grâce à Dieu et Saint-Lazare devient un foyer de vie spirituelle intense et vivifiante, et c'est de là que les prêtres de la mission vont avoir le surnom de lazaristes. Et là se font bientôt les retraites des ordinants, là, les futurs prêtres, les conférences du mardi, Bossuet, M. Ollier, bien d'autres, ont appris là le vrai sens de la vie sacerdotale. Ce sens profond que Vincent de Paul tient lui-même du cardinal de Bérulle et qu'il transmet à ses fils. Écoutez bien ça, le dessein de Dieu sur vous, prêtre, est grand, tendant à vous faire exercer l'office de Jésus-Christ sur terre. Bon, je répète, c'est trop beau pour les prêtres. Le dessein de Dieu sur vous, prêtre, est grand, tendant à vous faire exercer l'office de Jésus-Christ sur terre. Alors, le 27 septembre 1660, dans sa petite cellule de Saint-Lazare, tranquille comme un enfant qui s'endort dans les bras de sa mère, eh bien, M. Vincent a rendu son âme à Dieu. Il dit ces paroles en latin, « In domino confido, confido. En vous, Seigneur, j'ai confiance. Oui, j'ai confiance. » Et ce sont ses dernières paroles. Un des derniers épisodes du fameux film de Maurice Cloche, le Monsieur Vincent, met sous nos yeux ce saint épuisé, défaillant à la fin de sa vie. En face d'Anne d'Autriche, il semble s'accuser de n'avoir pas fait assez pour tant de misère qui demeure, et elle de s'étonner, de s'étonner. Elle lui dit, mais que fallait-il faire? Et vous vous en souvenez, il répond, davantage. Il aurait rêvé d'en faire davantage, lui qui avait fait plus que n'importe qui. Oh, sans doute, il y a toujours à donner davantage, car autour de nous, toujours souffrent les membres du Christ. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Mais pour un saint, tout au fond, ce qui compte, ce n'est pas faire beaucoup, ni davantage. C'est faire ce que Dieu veut, et pour lui seul. Et comme le dit M. Vincent, Saint-Vincent de Paul, « Honorons particulièrement le divin maître dans la modération de son agir. » Non, il n'a pas voulu faire toujours tout ce qu'il a pu pour nous apprendre à nous contenter lorsqu'il n'est pas expédient de faire tout ce que nous pourrions faire. Ne nous chagrinons pas de ne pas pouvoir faire plus que nous pouvons. Acceptons de ne faire que ce que l'on peut. Ce sont des mots de M. Vincent. Ne nous torturons pas. Mais soyons sincères avec Dieu. Cet homme actif, cet homme de réalisation, à l'œuvre gigantesque, nous étonne toujours aujourd'hui par son ampleur, sa force. Il était surtout un homme de prière, c'était un grand contemplatif. Il disait, il faut la vie intérieure, il faut tendre là. Et si on y manque, on manque à tout. Sa charité pour les hommes, c'est le jaillissement de son amour de Dieu. C'est en Dieu qu'il regarde pour savoir quelle est sa part de travail à fournir dans le champ de celui, Dieu, qui est notre père de famille. Si Dieu l'a vu immense, il acquiesce et c'est tout. « Oh, monsieur, écrivait-il en 1647 au supérieur de l'établissement de Rome, quel bonheur de ne vouloir rien que ce que Dieu veut, de ne rien faire que selon que la Providence en présente l'occasion, et de n'avoir rien que ce que Dieu nous a donné par sa providence. » Et le secret de l'œuvre prodigieuse de M. Vincent, il est dans cet amour, dans ce dépouillement. Voici une prière de Saint Vincent. Mon Dieu, j'adore en silence votre providence. Je sais que rien de ce qui n'est pas vous ne peut remplir mon cœur. Je constate que mon cœur est plein du monde. Sans votre assistance extraordinaire, ma conversion est impossible. Alors ouvrez donc mon cœur, entrez dans cette place rebelle occupée par les vices qui l'assujettissent et reprenez possession de votre maison en maîtrisant le fort qui l'occupe. Reprenez les trésors qui vous ont été volés par le monde. Reformez et réimprimez votre image, celle que vous avez formée et imprimée en moi au moment de mon baptême, lors de ma deuxième naissance.